Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que nous pouvons chanter « Tu es tout pour moi ». Tu es tout pour nous. Que ferions-nous sans toi? Où irions-nous? Merci pour ton amour qui ne s'arrête jamais, qui est là, tel un fleuve, qui veut nous emporter avec lui. Alors que ton nom soit béni vraiment, que ton nom soit exalté dans nos vies, au milieu de cette église, au milieu de ton peuple, partout où il est réuni. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Amen. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir d'être là, même si ce n'était pas prévu. Je vous propose ce matin une réflexion sur comment est-ce que nous pouvons vraiment plaire à Dieu. Je suis sûr que vous avez tous envie de plaire à Dieu. Amen. Ah voilà. Bon, c'est pas encore très enthousiaste, mais c'est le matin. Et puis je nous connais. Moi, je suis non plus pas à crier, ouais, comme ça quand je suis dans la salle. Donc, nous avons ce désir certainement de plaire à Dieu. Et il y a, paraît-il, je ne les ai pas comptés. Il y a plus de 60 textes dans la Bible qui nous encouragent à plaire à Dieu. Alors, on ne va pas tous les lire. J'en ai juste relevé deux. Ça fait du bruit, hein. Alors, le premier, il est dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, versets 9 et 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, donc c'est les gens de l'Église de Colosse, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Et puis un autre encore, après je m'arrête. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 1. Au reste, frères et sœurs, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Voilà, et puis il y aurait d'autres encore de textes comme cela qui nous encouragent à plaire à Dieu. Bon, c'est très bien, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. Parce que, voilà, on a une tendance naturelle en tant qu'être humain vraiment à vouloir, on a besoin de plaire aux autres. On a besoin d'être reconnu, d'être accepté. Et puis, ce qui fait que la motivation, parfois, elle est là, plaire à quelqu'un pour qu'il nous accepte. Bien travailler quand on est petit. Ah, mais c'est bien, mon petit, c'est bien, bravo. Et puis, avec celui qui travaille moins bien ou qui est un peu plus turbulent, ben peut-être que, ah, il faut vraiment que Dieu t'aide à t'assagir. Voilà, ce n'est pas forcément ce que Dieu attend, mais c'est ainsi. Je me souviens quand j'étais petit, j'ai retrouvé des cartes postales que mes grands-parents m'avaient envoyé quand j'avais 7-8 ans peut-être, et qui me disaient « Ah, cher Daniel, on a appris comment tu travailles bien à l'école, bravo, combien tu es sage, etc. » Je peux reprendre à peu près toutes ces cartes postales, il y en a un certain nombre, et puis c'est toujours tourné dans ce sens-là. Bravo pour ce que tu fais, bravo pour tes résultats, etc. Et puis, on est la même chose aussi pour plaire à Dieu parfois. C'est-à-dire qu'on veut en faire suffisamment pour être sûr de lui être agréable. Ça, c'est un problème. On va toujours en faire plus, toujours, toujours, pour être agréable à Dieu. On a peur de qu'il ne nous accepte pas. Est-ce que j'en fais assez pour que Dieu m'aime? Est-ce que je donne assez de mon argent et de mon temps pour que Dieu m'agrée? Est-ce que je vais suffisamment aux réunions, entre autres du mardi matin à 6h30, que je n'ai pas encore mangé, qui fait nuit et qui fait froid? Est-ce que... Et avec ça, il y a un risque d'épuisement quand même, un risque d'isolement, parce qu'on a souvent l'impression qu'on n'en fait pas assez. On n'est pas assez bien, on ne fait pas assez de choses, on n'arrive pas à se débarrasser de certains péchés qui nous poursuivent continuellement. Puis on est là et on dit « Mais Seigneur, tu vois, j'en peux plus. » Et puis j'ai honte de me mettre en colère contre ma femme, ce n'est pas mon cas, régulièrement. J'ai honte de faire ci, de faire ça. Mais j'en peux plus, puis tu ne dois plus m'aimer maintenant. Tu ne dois plus m'accepter si je fais ça. Tu es d'accord, Dieu, tu ne peux pas m'accepter si je continue de pécher comme ça. C'est un cercle vicieux. J'en fais pas assez, je n'aime pas me détourner de ce péché, j'ai honte, j'en peux plus, mais je fais comme si tout allait bien. Je souris aux autres pour qu'eux au moins m'acceptent. Je ne sais pas si certains se reconnaissent peut-être dans ce tableau où on est, parce qu'il y a l'attente des autres aussi, la pression des autres. Et on est là, et puis dans une église évangélique quand même, on ne peut pas ne pas aller bien, en tout cas devant les autres. Et puis parfois, ça ne va pas bien. Alors, est-ce que Dieu va nous aimer? Est-ce que Dieu nous accepte? Si ça fait 52 fois cette année que je lui demande pardon pour ce péché, quand même. Moi, j'en pourrais plus. Si c'est à moi qu'on me demandait pardon tout le temps, pas même chose, mais j'en pourrais plus, quoi. Il faut quand même faire un effort. Il faut se pousser. Alors, il y a quand même de bonnes nouvelles. Amen. Il y a de bonnes nouvelles. La première, certainement, peut-être un peu paradoxale, mais c'est que finalement, Dieu n'a pas besoin de nous pour être heureux. Il n'a pas besoin de nous. Imaginez un peu, à un moment donné, il a créé l'univers tout entier et il nous a créé nous. Mais avant, il n'y avait pas, on n'existait pas, il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas de cosmos, il n'y avait rien du tout. Est-ce que Dieu était malheureux? Ben non. Il est heureux, il vivait l'amour au sein de la Trinité, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils étaient heureux, ils étaient bien, ils étaient ensemble, ils se comprenaient. Et puis, Dieu a voulu ouvrir cet amour à d'autres êtres, les êtres humains, à nous. Alors, il se réjouit, bien sûr, quand on l'adore, il se réjouit de cela, mais on n'a pas besoin, il n'a pas besoin de notre adoration pour être heureux. Il se suffit à lui-même. Mais il y a quand même une clé pour plaire véritablement à Dieu sans s'épuiser. C'est bien, hein ? Bien fait de venir. Alors, je vous propose, et cette clé, c'est la foi. Alors, je vous propose que nous lisions quelques versets dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. On va lire les versets 1 à 6. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Donc Abel. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et puis après, ça continue. C'est par la foi, c'est par la foi. On voit dans ces versets que c'est par la foi qu'ils ont été déclarés, qu'ils ont été reconnus comme agréables par Dieu. C'est par la foi. C'est ça qui est au début, qui est à l'origine. Et il y a ce verset assez terrible dans un certain sens. On a lu que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Et Paul écrivait aux Romains que même tout ce qui est fait sans la foi est un péché. Et toutes ces personnes, et c'est là vraiment cette clé pour être agréable à Dieu. Sans la foi, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire toutes les réunions, tous les séminaires, écouter tous les cultes sur Internet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous ne plairons pas à Dieu. Et la foi, c'est cette assurance ou cette garantie que ce que Dieu nous a donné, eh bien, nous le possédons déjà. Nous avons cette garantie que nous possédons déjà par la foi la réalité des biens à venir. Nous possédons par la foi le salut. Bien sûr, en nous reconnaissant pécheurs et en nous repentant de notre péché, mais par la foi, eh bien, nous avons déjà la garantie de ce salut, la garantie de ce que nous pourrons vivre après notre mort. Et c'est un mot, cette garantie, cette assurance, c'est un mot qui est très fort en grec, qui désigne même la substance, l'essence de quelque chose, c'est-à-dire le fondement de quelque chose. C'est une manière de posséder déjà par avance. Et si j'ai la foi que Jésus-Christ est mort pour moi et qu'il est ressuscité, eh bien, je peux vivre de manière détendue. Voilà, je me détends un petit coup. Je peux vivre de manière détendue parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance, qu'il ne va pas me tromper, que c'est lui qui m'a racheté. C'est vraiment faire une totale confiance à Dieu. Est-ce que j'ai une totale confiance en Dieu que Jésus-Christ m'a sauvé? Est-ce que j'ai l'assurance de mon salut? J'espère. J'espère que vous l'avez toutes et tous. L'assurance du salut. Et cette foi, c'est pas un truc comme ça. Hein. Oh oui, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. On va prier, puis tu vas voir, ça va aller. Alors, il y a des tendances un peu d'abus dans ce sens-là. Puis après, si ce pourquoi on a prié ne se réalise pas, on dit « Oh, mais t'as pas eu assez de foi. Dommage. C'est moche, ça. Vous vous rendez compte ? C'est moche. Parce que peut-être que c'était pour une maladie grave qu'on a prié. Et puis, non seulement, ben, tu te retrouves, on te dit que t'as pas la foi, ou bien ta famille, vous n'avez pas eu suffisamment de foi, puis en plus, la personne n'est pas guérie. C'est vraiment triste. C'est la foi, elle a une origine qui est tout à fait fiable. Ce n'est pas un truc irraisonné. Elle vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend de la parole de Jésus. Elle vient de là, la foi. Et notre foi, elle peut se développer dans la mesure, justement, de notre communion avec Dieu, avec Jésus. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la parole de Jésus. C'est Romains 10, 17 qui le dit. Donc, ce ne sont pas nos efforts, aussi louables soient-ils, qui vont plaire à Dieu. Mais c'est le fait que nous croyons véritablement au point de faire confiance en Dieu qu'il nous a rachetés, qu'il nous a justifiés, et puis que nos vies sont dans sa main, réellement, maintenant, quelles que soient les circonstances. Nos vies sont dans la main de Dieu. Et tout ce qui se passe en nous, que ce soit tous les problèmes que l'on peut rencontrer, tout ce qui se passe dans le monde aussi, qui est quand même bien chahuté, eh bien, nous avons cette assurance que nos vies sont dans la main de Dieu et que nous ne risquons rien du tout. Alors, ça a quelque chose, j'ai déjà dit une fois, je le redis, de reposant, que de savoir que nous lui sommes agréables en choisissant, en décidant de mettre notre confiance en Dieu. Même si on a l'impression qu'on n'en fait pas assez, même si on a l'impression que ce péché qu'on traîne comme une casserole depuis des années et des années est toujours là, Dieu prend plaisir dans le fait que je mets ma confiance en lui. C'est lui qui est à l'origine de toute chose. Ne l'oublions pas. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Il n'y a rien que nous puissions faire par nous-mêmes qui est notre origine, simplement dans notre intelligence. Notre intelligence vient de Dieu. J'écris mes notes à la main, puis je n'arrive plus à me relire. Mais nous avons vraiment cette... ça y est, je suis perdu. Que Dieu... oui, Dieu est à l'origine de toute chose. Et c'est de Dieu que viennent tous les dons parfaits que nous pouvons recevoir. Hein, c'est Jacques qui le dit dans son épître. Et puis, il y a également, il y avait d'autres versets qui disent que c'est pas que personne ne peut, que Dieu n'attend pas qu'on lui rende des choses. On ne peut rien lui redonner. C'est lui qui nous donne toutes choses. C'est lui qui est à l'origine de toutes choses. Donc, eh bien, pour lui être agréable, nous ne pouvons rien lui apporter. On ne peut rien faire pour notre salut. On le sait, c'est quelque chose qu'on sait parfaitement, intellectuellement, mais combien c'est parfois difficile à vivre. Combien c'est parfois difficile. On a l'impression qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut en faire assez, parce que sinon, Dieu ne va pas, on va pas lui être agréable. Mais qu'est-ce qu'on veut lui apporter ? Hein ? Honnêtement. Qu'est-ce qu'on veut lui apporter ? Notre confiance. Et ça, c'est fort. C'est vraiment de reconnaître, parce que si on met notre confiance en Dieu, on reconnaît qu'il est à l'origine de toute chose et qu'il est la fin de toute chose. On le reconnaît, c'est comme si on le disait. C'est plus fort que tout ce qu'on peut faire, que tous les sacrifices que pouvaient offrir les Israélites de l'Ancienne Alliance, de toutes les prières que nous pouvons élever. C'est beaucoup plus fort de vivre d'une manière qui fait confiance à Dieu. Et c'est extraordinaire parce qu'il a dit qu'il fait de nous ses enfants. Il fait de nous ses enfants. Nous sommes des créatures qui ne nous intéressions pas à Dieu. Et lorsque nous répondons à son appel, eh bien, il fait de nous ses enfants. Il nous adopte. C'est incroyable, hein ? On est adopté par Dieu. Et alors, ainsi, nous pouvons marcher d'une manière qui plaise à Dieu. Il ne faut pas inverser les choses. Ce n'est pas marcher d'une manière qui plaise à Dieu, d'un, et puis après, ben, faire confiance à Dieu, peut-être. Mais le un, c'est faire confiance à Dieu. Et en faisant confiance à Dieu, alors on pourra marcher d'une manière qui est agréable au Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Alors, en mettant notre confiance en lui, nous pourrons marcher et même courir. On a vu marcher, maintenant même courir d'une manière qui lui soit agréable. Dans Hébreux 12, on peut lire dans les deux premiers versets, « Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est les témoins qui ont, toutes ces personnes qui ont vécu avant nous, qui étaient là, présents avant nous, et puis qui ont été trouvés agréables par Dieu, qui ont plu à Dieu par leur foi. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Jésus a accompli ce chemin. Nous avons plein de témoins autour de nous, ils ne sont pas en train de nous surveiller, hein, de voir si on fait bien, mais ils sont là pour nous encourager. C'est un peu comme le public dans un stade. Et nous sommes appelés à courir, non pas un sprint, mais un marathon, ou peut-être deux, ou trois, ou quatre. Ah. Mais on ne va pas se fatiguer, on ne va pas se lasser. Pourquoi ? Parce qu'on a ces spectateurs qui sont là, qui nous encouragent. Quand on regarde à eux, on se dit « Waouh, Abel, c'est vrai. Oh, et puis Noé qui a construit une arche alors qu'il n'y avait rien du tout, il n'y a pas de mer, rien.
et puis Moïse, et puis Abraham avant, et puis tous les autres. Alors certains, ça s'est mal fini leur histoire terrestre. Ils sont morts, ils n'ont pas aucun atteint ce que Dieu avait en vue parce qu'il voulait qu'on soit là. Donc c'est cool ça, ils sont là, ils nous encouragent pour que nous aussi nous puissions avoir accès aux promesses de Dieu. Et donc on a aussi devant nos yeux, autour de nous, on a ces témoins et devant nous, nous avons Jésus-Christ qui est maintenant assis à la droite de Dieu. Vous le croyez ? Il est assis à la droite de Dieu et puis c'est lui qui a ouvert le chemin de la foi. C'est lui qui a ouvert ce chemin. Donc, en mettant notre confiance en lui, eh bien, nous pouvons être tranquilles. Waouh ! C'est super. Jésus qui est devant nous est assis à la droite de Dieu qui nous appelle. Nous ne dépendons pas d'œuvres. Nous ne dépendons pas de ce que nous faisons ou ne faisons pas, mais nous dépendons de cette confiance que nous mettons en Dieu. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et c'est par la foi que nous sommes déclarés justes. Ça, ce sont des versets dans Éphésiens et dans Romains. C'est nous sommes déclarés justes par la foi, par la grâce. Et c'est par la foi que nous sommes appelés à vivre. Donc pour nous, au commencement, il y a Dieu. Dieu qui nous appelle et notre réponse qui est de faire confiance à son appel. Si tu m'appelles, eh bien, je veux te faire confiance parce que je sais que tu n'abandonneras jamais tes enfants et que tu ne m'abandonneras jamais. Et puis après, eh bien, nous allons marcher notre vie dans la foi. C'est pas toujours du gâteau, hein. Mais néanmoins, nous pouvons nous encourager les uns les autres. On n'est pas tout seul. Nous ne sommes pas tout seuls. On se retrouve, une équipe ici. Il y en a d'autres dans d'autres villes, encore d'autres équipes à Bussigny de croyants qui se retrouvent. Et puis ensemble, eh bien, nous pouvons nous encourager, nous dire waouh. Hey, Salomé, t'as vu tous les spectateurs là qui sont en train de te regarder avancer, hein? T'as vu ça? Mathurin, Sarah, hein, tous ces gens qui sont là, puis qui t'encouragent. On y va, allons-y, on ne se décourage pas. Et puis il y a les autres après qui viennent nous chercher, nous prendre sous les bras pour nous aider à avancer quand ça ne va plus. Cultivons notre écoute de ce que nous dit Jésus. Écoutons, lisons sa parole. Ne nous lassons pas avec le Saint-Esprit que vraiment nous puissions être encouragés, fortifiés et que la vie par la foi, eh bien, soit vraiment notre mode de vie. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que c'est toi qui as ouvert le chemin de la foi. Merci parce que tu ne nous demandes pas de faire des choses incroyables ou impossibles. Ça n'apporterait rien. Mais tu nous appelles à mettre notre confiance en toi. Alors je te prie ce matin pour que nous puissions vivre cette vie de foi. Que lorsque nous sommes rattrapés par vouloir faire des choses, faire des bonnes œuvres, etc., eh bien, tu nous rappelles que ce n'est pas ça le principal, le prioritaire, mais c'est notre confiance en Jésus. Alors, merci, mon Dieu, de nous parler encore pendant ces prochains jours, de nous encourager, de nous fortifier, les uns les autres. Que nous puissions voir cette nuée de témoins qui est là, qui est en train de nous encourager, d'applaudir, et que nous puissions te voir, Jésus, assis à la droite de Dieu, qui bientôt va revenir pour chercher ton Église. Que ton nom soit béni. Amen. Encore juste un post-scriptum, parce que vous allez me dire, bon, alors on n'a plus besoin de rien faire, hein. C'est cool. Alors, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous vivons par la foi, eh bien, nous avons les moyens d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous afin que nous les accomplissions. Mais c'est pas, ça ne va pas être lourd. J'en peux plus, là. Toutes ces réunions, je ne sais pas ce que vous en pensez. Se lever pour 6h30, ça sera avec légèreté, servir au table, préparer le repas de midi, débarrasser les tables, oh là là là, là, c'est toujours les mêmes qu'on s'y colle. Mais on est amené à vivre le service d'une manière légère. Et si ce n'est plus le cas, posons-nous la question, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu ? Amen.